un livre sur Pierre Etex. C'est le premier livre sur Etex.
Oui, c'est le premier sur Etex. Chaque fois qu'un film de lui est sorti, il y a une presse très importante, mais jamais aucun livre n'a été écrit sur lui. Je ne sais pas si c'est de sa faute à lui, parce que c'est quelqu'un de très modeste et qui résiste beaucoup à l'interview, à l'entretien, à l'exégèse, ou bien parce que la critique en général n'a peut-être pas toujours considéré l'œuvre des textes pour sa véritable valeur. C'est possible aussi.
Alors, Etex est quelqu'un d'assez méconnu. Il a plusieurs facettes à son talent. Mm-hmm. On pourra revenir là-dessus. Il est à la fois dessinateur, auteur de films, acteur, homme de cirque. Il est très doué de ses mains. Donc, comment est-ce qu'on approche un personnage comme celui-là ?
Mais moi, je ne dirais pas qu'il a plusieurs facettes à son talent, ou du moins, disons que les différentes facettes ne sont absolument pas séparées les unes des autres. Il me semble que c'est quelqu'un qui a au contraire une grande unité et qui développe peut-être son talent sur plusieurs activités, mais qui sont toutes profondément liées à des grands principes. Je crois que son premier principe, c'est le plaisir, simplement. C'est-à-dire que je crois que c'est quelqu'un qui respecte infiniment le spectacle, et qui s'est mis à faire du cinéma que parce qu'à un moment donné, c'était l'instrument qui lui permettait d'exprimer ce qu'il avait envie d'exprimer. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui part du cinéma ou qui démarre sur le cinéma, quoi. Et je pense que ce qui fonde son travail, c'est plutôt le cirque.
Donc, est-ce qu'on pourrait aborder cet aspect-là des textes ? Le cirque d'abord, et je crois que ça commence dans la petite enfance.
Oui, c'est l'origine, c'est-à-dire que quand il était enfant à Roanne, tout commence avec son grand-père qui l'emmène au cirque Pinder alors qu'il avait 5 ans. Et Etex a été très, très. Enfin, il s'en souvient parfaitement bien, c'est vraiment un souvenir fondamental. A été très ému en voyant les clowns, à la fois parce qu'il voyait et parce qu'aussi son grand-père riait au même moment que lui. Et ça, c'est une chose qui l'a beaucoup troublé, c'est-à-dire qu'on puisse, avec quelqu'un qu'on aime, communier dans le même plaisir. Et le fait que son grand-père riait au même moment que lui, l'a beaucoup bouleversé. Bon, et puis la vision des clowns l'a beaucoup bouleversé aussi. Ces clowns dont il ne sait pas qui ils étaient, alors qu'Etex, c'est quelqu'un qui a une science formidable du cirque, qui connaît absolument tout ce qui s'est fait dans le cirque depuis les origines. Il n'a jamais réussi à retrouver, malgré ses recherches, qui étaient les clowns qui passaient ce jour-là au cirque Pinder. Donc, il a été saisi par l'importance de ce qu'il voyait, par le fait que c'était des gens qui pour lui, tombaient du ciel, qui le faisaient rire, mais qui ne venaient de nulle part, qui n'allaient nulle part, qui probablement n'existaient pas avant d'entrer sur scène et qui n'existeraient plus après. Et qui avait une espèce d'existence transcendante comme ça, tout d'un coup. Et qui, en plus, le faisait terriblement penser à ce qu'il était lui à l'époque, à savoir des enfants. Et il y a toujours, jusqu'à aujourd'hui, chez Etex, le goût de préserver la qualité de la sensation de l'enfant, de l'enfance, du plaisir immense que peut avoir un enfant à avoir des clowns ou à faire quoi que ce soit. Je veux dire, la capacité des enfants à avoir une espèce de sens esthétique inné et qui pour lui, dont je suis convaincu qu'il continue à préserver ça aujourd'hui, qu'il est un homme mûr. Et ce qui est fondamental, c'est le spectacle et le plaisir. Et tout est là et tout est fondé là-dessus.
C'est curieux parce que en t'entendant parler comme ça, j'ai l'impression que tu me parles de yo-yo, alors que tu ne me parles que de l'enfance des textes. Et quand je dis que tu me parlerais de yo-yo, c'est cet aspect non pas intemporel ou d'éternité comme ça, de fragments de temps qui est injecté dans yo-yo, et puis tout d'un coup cette irruption d'histoire, mais on va revenir là-dessus, qui existe dans yo-yo. Mais j'ai l'impression qu'en fait, yo-yo sera le film dans lequel il va mettre tout ce qui dans l'enfance l'a façonné. Pas seulement peut-être.
Oui, enfin c'est aussi certainement enfin ce que tu dis est vrai, mais c'est aussi un grand film de cinéma, quoi. C'est aussi un grand film de cinéaste. Mais c'est vrai que Yo-Yo est probablement le film où il a exprimé le plus de choses fondamentales.
La première personne, je,
quasiment. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait fait Le Soupirant avant, qui avait été un film qui avait été fait avec, pas des bouts de ficelle, mais en tout cas un petit budget, et à la surprise générale, à sa surprise à lui, à la surprise du producteur, ça a été un énorme succès à l'époque. C'est-à-dire que ça a dû faire 350 000 entrées à Paris. Et à partir de ce succès qui a été gigantesque, il a eu des prix en Union soviétique, il est allé au Japon, ça a été un succès énorme. Il y a un tas de gens qui ont cru, avec Le Soupirant, avoir une espèce de gisement de fric, et on allait pouvoir faire la suite du Soupirant, Le Soupirant se marie, Le Soupirant divorce, enfin une espèce de série. Et pas du tout. Et Tex a profité de ce succès pour demander beaucoup d'argent à son producteur, qui est Paul Clodon, que j'ai pas mal rencontré pour la préparation de ce bouquin d'ailleurs. Et il a fait ce film avec tous les moyens qu'il espérait avoir. Et le film n'a pas eu de succès. C'est très curieux. Enfin, le film a eu un petit succès par rapport au Soupirant qui avait été un grand succès. Mais c'est certainement le film où il a eu le plus de possibilités, le plus de liberté et le plus d'argent aussi. Et où donc il a vraiment donné peut-être pas le meilleur de lui-même, parce que moi j'aime beaucoup tous ses films, mais en tout cas peut-être le plus fondamental, le plus intime, le plus fort de ce qu'il avait à dire sur le cirque et sur l'enfance.
Donc on va revenir sur le cirque. Etex n'est donc pas un enfant de Laval.
Ah, pas du tout, absolument pas.
Voilà.
Absolument
mais par pas. Contre, il vient vers le cirque. Alors tu le replaces dans ton livre. Mmh. D'ailleurs, ton livre a des aspects de livre à pli, on prend le temps de le lire, il y a une illustration très agréable, pour dire c'est un livre agréable à manier. Et avec cette citation que tu fais d'Henri Miller, du sourire au pied de l'échelle, que tu nous donnes le temps de lire théoriquement, parce que je n'ai pas pris le temps de faire. Mais j'aimerais que tu reviennes sur cet aspect du cirque, ce que Miller appelait la crucifixion en rose.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est passionnant chez Tex, c'est que pour lui, ça semble une banalité, mais il l'a poussé au bout et il a été au fond dans cette question-là, c'est qu'il n'y a rien de plus sérieux que le rire. C'est-à-dire que c'est vraiment une chose très sérieuse et c'est pratiquement pour lui une chose mystique. C'est une chose un peu intime chez Tex, mais enfin c'est quelqu'un qui est profondément religieux, c'est quelqu'un qui a une... qui est un idéaliste au bon sens du mot, et qui ne fait jamais rien d'inutile ou de gratuit, et pour qui il y a effectivement chez le clown quelque chose qui est de l'ordre du rapport avec Dieu. Même si c'est une chose qui moi ne me touche pas énormément personnellement, on ne peut pas contester qu'il y a ça chez les textes.
Quelque chose qui a un rapport avec le sublime, le sacré.
Oui, bien sûr, le sacré et la transcendance. Et le projet... que Etex a toujours eu et qui continue à poursuivre, c'est de faire la Genèse avec le premier homme qui serait un clown. Et c'est un projet qui a failli être mené à bien en 86, puisque enfin Etex avait trouvé de l'argent, une production, puisque Le Louche devait produire le film. C'était un projet qu'il avait depuis des années et des années, et à ce moment-là il y a eu la rencontre avec Coluche. Et Coluche était tout à fait enthousiaste, était prêt à faire le film. Il y avait l'argent, il y avait l'acteur qui à l'époque était un acteur glorieux. Et puis voilà, Coluche s'est foutu dans un camion et le film ne s'est pas fait. Et Tex aujourd'hui continue à approfondir ce projet et il va probablement le mener à bien. Peut-être pas directement au cinéma, mais l'idée que le clown c'est le premier homme, c'est fondamental, quoi. Et ça va très très loin parce que c'est philosophique, c'est-à-dire que, enfin, ça semble, j'ai l'air de parler de choses très sérieuses alors que c'est c'est un cinéma du rire et qu'il est évident que l'effet de ce spectacle, s'il réussit, sera de faire marrer les gens, quoi, dans tout ce que ça peut avoir d'immédiat et de simple, parce que c'est pas un intellectuel et les intellectuels le révulsent un peu, mais en tout cas il y a à la base l'idée que le clown, c'est celui qui se heurte à la réalité, c'est celui qui glisse sur la peau de banane, qui se fout le nez dans les portes alors qu'elles sont fermées, il n'a pas vu qu'elles étaient fermées, qui essaye de faire les choses bien et qui se plante. Et c'est, il y a quelque part une espèce de parabole de l'aventure humaine, quoi. Enfin, de jamais réussir à être tout à fait au bon endroit, au bon moment. Et...
C'est dans le décalage, en fait, que le clown se réalise. Et c'est toujours la problématique de dépasser l'écart. En fait, c'est tous les grands clowns sont comme ça. Et Tex, tu en parles dans ton livre, c'est un peu auguste. Et donc, c'est ça, quoi, toujours.
Il a été les deux, hein. Il a été auguste et il a été clown blanc aussi.
Il a été clown blanc. Ouais. Ouais, effectivement. Donc, dans le clown, il y a par rapport au réel la nécessité de coltiner le réel, d'y faire face et quelque part de le dépasser.
Ah oui, bien sûr, parce que ce qui est sûr, c'est que si on prend le personnage de l'Auguste, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on pourrait appeler les sketchs en langage ordinaire, en fait, ça s'appelle une entrée au cirque. Oui. L'entrée de clown classique, c'est l'Auguste qui arrive, le clown blanc essaye de lui apprendre quelque chose d'un peu compliqué pour lui, l'Auguste se plante, rate, etc. Le clown blanc l'engueule en disant tu comprends rien, t'es idiot, etc. Il finit par répéter plusieurs fois, et à la fin c'est quand même l'Auguste qui gagne. C'est-à-dire que c'est le maladroit, l'enfant, celui qui est en train d'apprendre, qui finit par triompher de celui qui au contraire a les règles, sait faire les choses comme il faut, et a les bonnes manières, et c'est Le clown n'est pas dans l'échec, c'est-à-dire qu'il commence par se planter et il finit toujours par réussir, et c'est toujours lui qui a le dernier mot.
C'est pour ça que je disais que c'était un truc du dépassement, une problématique du dépassement, parce qu'il y a se surmonter soi-même, surmonter les obstacles pour devenir soi, quoi. Donc, voilà.
C'est un sujet, tu le dis
dans ton livre.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce qui passionne les textes dans le clown, c'est qu'aussi, les grands clowns ont toujours été leur propre metteur en scène, leur propre scénariste, leur propre acteur, leur propre acrobate, et que le clown n'est pas un comédien. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui incarne un personnage, c'est lui-même sur scène et qu'il n'est que ça. Annie Fratellini, qui est la femme de Pierre et Tex, racontait qu'un jour il y a une petite fille qui est venue la voir et qui lui a demandé « Mais qu'est-ce que ça mange, un clown ?» Et c'est une question qui a toujours été très troublante pour Etex et Fratellini, c'est-à-dire qu'un clown, ça mange rien, parce qu'un clown, ça n'existe qu'au moment où il est sur la piste, dans la piste. Et il n'existe pas avant, il n'existe pas après, il est lui-même au moment où il est dans la piste, et il n'est pas un personnage. Et d'autre part, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que tous les grands clowns, Gros, Chrome, les Fratellini, faisaient à peu près la même entrée pendant toute leur vie. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui avaient un registre énorme. Et Grock a fait la même entrée pendant 50 ans, qui perfectionnait au fur et à mesure, mais qui, au bout de 50 ans, était toujours la même, arrivé à une espèce de degré de perfection extraordinaire qu'on peut voir dans le film sur Grock qui continue à passer à Paris. Et il avait une seule entrée qu'il a perfectionnée pendant 50 ans.
Yes, dans le titre, on va revenir, le titre du livre même, le métier de Pierre et Tex, il y a cette idée de perfectionnisme et de travail. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus? Parce que c'est vrai que ton livre ne s'appelle pas Pierre et Tex, ou le cinéma Pierre et Tex, ou la magie des Tex, ou et Tex aux mille facettes, mais bien le métier de Pierre et Tex.
Alors, Le clown, à l'origine, si on se place sur un plan historique, c'était des clowns de reprise, c'est-à-dire qu'entre les numéros des acrobates, des jongleurs, des écuyers, des trapézistes, il y avait un bonhomme qui venait sur scène pendant qu'on changeait ce qu'il y avait sur la piste pour le prochain numéro et qui imitait le type d'avant et qui le parodiait. Seulement, pour parodier un acrobate, un écuyer, un jongleur ou un trapéziste et pour faire rire le public, il faut connaître l'art de l'écuyer, du trapéziste, du jongleur, et il faut être aussi bon que lui. Et donc, on ne peut pas être un clown sérieux sans maîtriser absolument toutes les techniques du cirque. Et parce que sinon, je veux dire, c'est pas drôle, quoi. Si le clown n'est pas capable de faire un rétablissement sur un trapèze à 10 mètres du sol, il ne peut pas faire rire les gens. Et c'était des gens, en général, qui étaient un peu plus anciens que les autres personnages, les autres artistes de cirque, et qui étaient passés partout, qui n'étaient plus tout à fait à même de faire les numéros très difficiles que faisait le dompteur ou le trapéziste, mais qui, en tout cas, les maîtrisaient. Et il n'y a pas de clown sans un métier parfait, quoi. Il n'y a pas de clown qui ne sache pas tomber, monter à cheval, jouer de la musique, Et pour parodier, il faut connaître parfaitement. C'est pour ça que Etex est en général assez sévère avec les clowns modernes, parce qu'il dit qu'il ne maîtrise pas les techniques qu'ils doivent nécessairement maîtriser pour être de bons clowns. Et Etex a une grande révolte, une grande colère contre tous les gens qui ne font pas leur travail proprement. C'est une chose qu'il redit tout le temps. Quel que soit le travail, si on le fait pas proprement et si on n'en maîtrise pas toutes les techniques, ça reste superficiel et ça n'intéresse pas. C'est pour ça qu'en général, il est très très sévère avec beaucoup d'artistes.
Alors, le parcours des textes vers le cinéma, puisque Passerelle, c'est une émission de cinéma, même si elle s'appelle Passerelle, parce que justement, elle jette des ponts avec d'autres arts, justement, et Texte est tout à fait le bienvenu dans Passerelle, il y a tout à fait sa place, justement. Comment il arrive au cinéma? Alors, il y a à la fois, je crois que tu le dis dans ton livre, la rencontre avec Paul Cloudon, sur laquelle j'aimerais bien que tu reviennes, et puis le fait de venir jouer dans Jour de fête, le spectacle que tu as dit, mon tête à l'Olympia, dans les années 60, le spectacle.
C'est une longue histoire, l'histoire des textes et le cinéma. C'est-à-dire que ça commence aussi dans l'enfance, parce que quand il était tout petit, son père avait le fameux pâté Babi que plein de grands cinéastes en fait, ont eu dans leur enfance. Par exemple, Jacques Demy avait un pâté Babi chez lui. Agnès Varda en parle dans le film qu'elle a fait sur lui, et sur Jacques Audenord. Enfin, il y a beaucoup de gens qui avaient un pâté Babi. Donc, Etex avait son pâté Babi à la maison et voyait les films de Harold Lloyd, de Chaplin, de Laurel et Hardy, qui sont aussi fondateurs pour lui que l'art du cirque. Il a toujours été passionné par le cinéma. Donc, il avait, dans sa première jeunesse, fait un peu disons de gymnastique, quoi. Enfin, c'est-à-dire de travail un peu d'acrobatie, un petit peu de jonglage, des choses comme ça, beaucoup de magie. À Roanne, il faisait partie de troupes d'amateurs, il faisait du théâtre, il faisait du comique, il passait dans les foires, des choses comme ça. Et il a entendu un jour Tati qui faisait appel à des jeunes en disant simplement une phrase qui devait être une phrase un peu passe-partout, disant moi si les jeunes viennent me voir, je les accueille avec plaisir. Et donc, bon, et à ce moment-là, Etex est venu à Paris, quoi. Et est venu voir Tati pour lui montrer ses dessins, parce que Etex à l'époque faisait des dessins d'humour, et lui dire bon, qu'est-ce que vous en pensez, parce que vous avez dit que vous aidiez les jeunes et tout ça. Et Tati l'a engagé pour mon oncle, en lui disant écoutez, venez me voir. On va travailler ensemble sur mon oncle, ce qui n'était pas prévu. Enfin, Etex pensait pas qu'il n'avait pas l'intention de travailler avec Tati, il voulait lui demander des conseils. Donc il est devenu l'homme à tout faire un peu de Tati sur mon oncle. Il a beaucoup dessiné sur mon oncle, il a fait beaucoup de
il a fait l'affiche notamment.
Il a fait l'affiche. Mais pendant le film lui-même, il était très présent sur la préparation des scènes, sur les idées de gag, il était très... et puis sur les idées techniques, c'est-à-dire que Etex est très créatif pour ce qui est des trucages, des objets, des objets transformés, etc. Et donc il avait sans arrêt, par exemple dans mon oncle, toute l'installation complètement biscornue de la cuisine avec les appareils un peu... d'anticipation moderne, très moderne, c'est souvent Etex qui a fabriqué tout ça, en tout cas qui en a eu l'idée.
C'est pas étonnant quand on voit la conception du décor qui est par la suite.
Et donc, il a travaillé avec Tati sur mon oncle, après, bon, il a eu envie de faire autre chose, il a quitté Tati, et puis au moment où Tati faisait Jour de fête à l'Olympia, sur la demande de Bruno Cocatrix, il a cherché Etex. Et Etex ne voulait plus trop entendre parler de Tati, il voulait travailler de son côté. Et Tati a beaucoup insisté, il lui a dit, il lui a fait dire, venez me voir, je voudrais vous mettre dans le spectacle, etc. Il y a des choses que j'aime bien chez vous. Etex est très réticent. Et au moment où Tati lui a donné un rendez-vous, Etex lui a dit, mais je ne peux pas venir de toute façon, j'ai un spectacle ce soir, je joue au cabaret, donc j'ai pas le temps. C'était pas vrai. Etex n'avait absolument pas de cabaret à faire le soir en question, mais il voulait pas y aller. Et Tati et Cocatrix, qui étaient là aussi, simplement lui ont dit, bah, écoutez, passez après. Il dit, oui, mais vous comprenez, moi je termine à 3h du matin, écoutez, il n'y a pas de problème, vous venez à 3h du matin. Donc Etex a passé la soirée chez lui, puisqu'il n'avait pas de cabaret, à attendre ce rendez-vous qu'il avait absurdement donné à 3h du mat. Il est venu faire son numéro qu'il faisait dans les cabarets à l'époque devant Tati Cocatrix, il a été engagé. Et c'est là, c'est pendant le spectacle de Jour de fête à l'Olympia qui a eu beaucoup de succès, que Paul Cloudon, qui était à l'époque producteur de courts-métrages, est venu trouver Etex et lui a dit écoutez, je cherche des gens pour faire des films. Comme Etex avait déjà des idées de scénario derrière la tête et tout ça, l'affaire a été faite et il a fait ses deux premiers courts-métrages avec Clodo.
Alors, les deux premiers courts-métrages, il y a Rupture et Heureux anniversaire. Tu peux nous en dire deux mots?
Oui. Alors, ce sont des choses qui ont été faites avec Jean-Claude Carrière, qui sont signées par Etex et Jean-Claude Carrière d'ailleurs, et qui étaient des choses qui leur trottaient à tous les deux dans la tête depuis longtemps. Donc, en fait, Clodo a été l'occasion, mais Clodo n'a pas inventé ni Rupture ni Heureux anniversaire. C'est vraiment Etex et Carrière qui sont à l'origine de ça. Et Etex dit que au moment de Rupture, au moment de l'idée de Rupture, il ne pouvait le faire qu'au cinéma. C'était impossible à faire au cabaret parce que il y a un tas de détails dans cette situation de Rupture que je peux raconter, hein, que je peux raconter l'histoire. Il faut être tout près du personnage pour voir ce qui se passe. Rupture, c'est un type dont la copine que sa copine veut quitter, donc il reçoit une lettre de Rupture. Il est à sa table, à son bureau, et il décide de lui répondre. Une lettre virulente et bien méchante pour lui faire comprendre qu'il est totalement indifférent à son indifférence à elle. Et il n'arrive pas à écrire la lettre parce que son stylo ne marche pas, sa table dégringole. Les éléments se liguent contre lui. C'est l'histoire d'un homme à qui les objets résistent. Et c'était une idée qui était une idée de manipulateur, de prestigitateur et de cabaret, mais qui n'était pas réalisable au cabaret parce qu'il fallait être tout près du personnage pour voir ce qui se passait. Et puis ça s'est fait très vite, et ensuite il y a eu Heureux anniversaire qui s'est fait en extérieur et qui a eu l'Oscar à Hollywood du meilleur court-métrage. Donc les choses ont été très vite, et à ce moment-là, Etex a pu faire Le Soupirant, Le Soupirant était un personnage aussi que Etex et Carrière traîner dans leur dossier depuis très longtemps.